un journal présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Drame à la préfecture de police de Paris. Un employé administratif a tué 4 policiers avant d'être abattu. On écoute tout de suite le procureur de Paris. Des milliers de manifestants à Bobigny pour que le suicide de la directrice d'école Christine Renon ne soit pas oublié. Comme elle, beaucoup de chefs d'établissement se disent épuisés. En Irak, la contestation prend de l'ampleur malgré la répression. En 3 jours, au moins 19 personnes ont été tuées. Les forces de l'ordre tirent à balles réelles sur les manifestants. Enfin, nous parlerons du Honduras, où le président est accusé d'avoir touché des millions de dollars de pots de vin de narcotrafiquants. Que s'est-il passé à la préfecture de police de Paris? 4 fonctionnaires ont été tués à l'arme blanche dans les locaux de la préfecture, l'un des lieux les plus sécurisés de la capitale sur l'île de la Cité. L'assaillant ne venait pas de l'extérieur, c'était un agent administratif de la préfecture qui y travaillait depuis plus de 20 ans. Rémi Yates, le procureur de Paris, a fait le point cet après-midi.
Nous déplorons le décès de 4 personnes fonctionnaires de 2 directions, donc de la préfecture de police, la direction du renseignement et également la direction de la sécurité de proximité. 3 hommes, 1 femme, 3 fonctionnaires de police et 1 agent administratif donc ont été tués. J'ai ouvert immédiatement une enquête qui a été confiée à la brigade criminelle de la direction régionale de la police judiciaire. Des chefs d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique et tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Cette enquête donc est en cours. Elle va s'attacher tout spécialement à mettre en lumière les motivations du passage à l'acte de l'auteur des faits qui a été neutralisé par un fonctionnaire de police présent. L'auteur présumé est âgé de 45 ans. Une perquisition est en cours à son domicile. D'autres investigations, bien sûr, vont être menées dans les prochaines heures. Nous sommes, avec mon collègue procureur national antiterroriste, en évaluation de la situation. Nous sommes en contact permanent et donc nous verrons quelle suite procédurale donner à cette affaire, à cet égard, donc sur la qualification. Mais c'est donc bien, pour le moment, le parquet de Paris qui reste saisi.
Le procureur de Paris, Rémi Yates. Bonsoir Antoine Marette.
Bonsoir.
Alors on sent une certaine prudence dans les propos du procureur. Est-ce que vous avez des informations plus précises? Est-ce qu'on a une idée de qui était cet homme et de ce qui a pu le pousser à passer à l'acte?
Eh bien à l'heure actuelle, à l'heure où nous parlons, la piste terroriste n'est toujours pas formellement exclue sans être pour autant privilégiée. Le procureur reste en contact avec le procureur national antiterroriste au sujet de cette affaire, même si pour le moment, seul le parquet de Paris est saisi. Et un journaliste qui lui demandait si la piste terroriste était évacuée, le procureur de Paris a refusé de répondre. La perquisition qui a lieu en ce moment au domicile de l'agresseur dans le Val d'Oise permettra peut-être d'apporter des réponses, tout comme l'interrogatoire de sa femme qui a été placée en garde à vue. En tout cas, ce qui interpelle dans cette affaire, c'est le mode opératoire, la nature des faits et leur extrême violence, 4 morts et un blessé, sans compter l'agresseur qui est lui-même décédé. Une agression qui s'est déroulée entre 12h30 et 13h à l'intérieur de ce lieu emblématique du pouvoir policier qui regroupe les grandes directions de la police parisienne, à l'exception de la police judiciaire. L'homme a attaqué avec un couteau de cuisine 3 policiers de la direction du renseignement dans 2 bureaux au premier étage du bâtiment. Il s'en est ensuite pris dans un escalier à 2 femmes, l'une employée à la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, l'autre à la direction des ressources humaines. Il est ensuite passé par la cour du bâtiment. Là, un policier de la direction de l'ordre public et de la circulation lui a intimé l'ordre de lâcher son couteau. Sans résultat, il a donc fait usage de son arme de service et touché l'assaillant à la tête, mettant fin à son parcours meurtrier.
Antoine Marette, Emmanuel Macron et Édouard Philippe se sont rapidement rendus à la préfecture de police de Paris, tout comme le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui a tenu à adresser un message aux policiers.
L'enquête ne fait que débuter. Le procureur de la République en présentera les différents éléments. Je veux évidemment avoir une pensée pour les victimes, pour les familles des victimes. Je veux avoir une pensée de soutien aussi pour une des victimes blessées qui est actuellement en cours d'opération et dont les nouvelles sont plutôt rassurantes. Je veux évidemment penser aussi à la totalité de nos personnels ici à la préfecture de police, à l'ensemble des policiers qui en France tous les jours traque les criminels, tous les jours se mobilise dans une volonté de prévention, d'empêchement de tout délit qui ont marqué ici, avec des lettres de sang, la préfecture de police. Vous imaginez bien combien nos personnels sont à la fois mobilisés immédiatement sous l'autorité du procureur pour mener l'enquête dans les meilleures conditions et pour que toute la vérité soit faite, et en même temps, l'ensemble de nos personnels sont marqués, blessés au cœur par ce qui s'est passé ici, au sein même des locaux de la préfecture de police.
Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui a reporté sine die son déplacement en Turquie et en Grèce. Ils ont d'abord accusé le coup quand ils ont appris le suicide de leur consœur le 22 septembre. Et puis les directeurs d'école ont lu la lettre laissée par Christine Renon, directrice d'une école maternelle de Pantin. Elle y disait son épuisement, la perte de sens de son travail, la pression de la hiérarchie, les réformes contradictoires. Beaucoup se sont reconnus dans le quotidien qu'elle décrivait. Aujourd'hui, plus de 45% des enseignants du primaire ont fait grève en Seine-Saint-Denis, selon le rectorat de Créteil. Et plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées à Bobigny pour demander que soit reconnu les difficultés rencontrées quotidiennement par les chefs d'établissement. Bonsoir Hakim Kasmi.
Bonsoir Aurélie Kiefer.
Les manifestants que vous avez rencontrés à Bobigny exprimaient à la fois tristesse et colère.
Oui, il y avait beaucoup d'émotions devant la direction de l'éducation nationale de Bobigny, notamment quand la lettre de Christine Renon était lue à la tribune. Pierre est directeur d'école en maternelle à Rosny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Il se reconnaît parfaitement dans ses mots et les difficultés du métier, lui, qui a été pendant 4 ans le collègue de Christine Renon à Pantin.
Concrètement, le matin, quand j'ouvre la grille de mon école, j'ai devant moi 720 êtres humains. 360 enfants accompagnés tous d'un adulte. Je suis responsable de la sécurité de mes élèves. Donc il faut que j'identifie les adultes qui rentrent, les adultes qui sortent. Répondre aux 70 mails qui arrivent tous les jours. Il faut que je sois responsable des locaux qui n'appartiennent pas à l'éducation nationale, qui appartiennent aux mairies. Donc il faut que je travaille aussi avec un maire, avec ses services. Il faut que j'accueille des parents parce que je suis en maternelle. Il faut que je rassure les parents. Tout ça, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps.
Mais l'émotion et les difficultés du métier laissent vite la place à la colère pour Annick, professeur des écoles à Aubervilliers, qui ne se sent pas du tout entendue et comprise par Jean-Michel Blanquer, qui a proposé ce matin, en guise de solution, la refonte du statut de directeur d'école.
À Monsieur Blanquer, on lui pose un problème de robinetterie, il répond littérature. Il comprend rien à notre colère. C'est insupportable. Au printemps, on a dit non au statut. Là, il y a une personne qui hurle sa souffrance. Ah, il nous ramène le statut. Mais c'est absolument... Moi, j'ai la rage totale.
Le ministre de l'Éducation qui pourrait aussi décharger totalement les directeurs d'école de donner cours devant élèves. Ils ne sont que 20% actuellement dans ce cas. Une bonne chose pour Savia, directrice à Bobigny.
J'ai la chance d'être déchargée et j'ose même pas imaginer comment font les collègues qui ne le sont pas. Quand j'ai commencé, je ne l'étais pas. Et honnêtement, j'avais une seule journée en classe. Et déjà, une journée en classe, ça me pesait. Donc, j'imagine même pas comment est-il possible en 2019 que des directeurs d'école soient encore obligés de faire classe.
En attendant, enseignants et parents d'élèves ont de nouveau rendez-vous samedi matin à Pantin pour une marche blanche.
Hakim Kasmi, Jean-Marie Le Pen condamné en appel pour 2 injures publiques visant les homosexuels. Le fondateur du Front National devra verser 2 400 € d'amende pour le lien qu'il avait fait entre pédophilie et homosexualité sur son blog et pour ses commentaires sur le compagnon du policier Xavier Jugues gelé, tué dans un attentat djihadiste sur les Champs-Élysées. RTL se sépare d'Éric Zemmour. Ses violents discours contre l'islam et les immigrés colonisateurs ne sont pas passés. D'autant qu'hier soir, sur Paris Première, le polémiste a déclaré qu'il maintenait ses propos et estimait n'injurier personne. Par ailleurs, la défense d'Éric Zemmour s'organise. En plus des nombreux tweets de soutien émanant de personnalités publiques, une pétition a été lancée pour qu'il puisse continuer à s'exprimer. Elle compte ce soir 42 600 signataires. Emmanuel Macron renoue avec le grand débat. Le chef de l'État arrive à Rodez, dans l'Aveyron. Il s'apprête à rencontrer 500 lecteurs du groupe La Dépêche pour parler avec eux de la réforme des retraites. Et pour aborder ce dossier sensible, le président sera épaulé par Jean-Paul Delevoye, le haut commissaire aux retraites. En début d'année, Emmanuel Macron avait lancé le grand débat national pour tenter de dénouer la crise des Gilets jaunes. Cet exercice lui avait permis alors de sortir de l'impasse et de renouer un lien avec les territoires, estime Bruno Cotres, chercheur au CNRS, politologue au CEVIPOF, d'où cette nouvelle grande concertation, cette fois sur les retraites. Bruno Cotres.
Emmanuel Macron essaye, depuis plusieurs mois maintenant, depuis la sortie fondamentalement du grand débat national, il essaye de ressourcer, de renouveler son image auprès de la population française. Et tout se passe comme si Emmanuel Macron voulait nous montrer qu'il y a un trait d'union qui est en train de se faire ou que lui souhaite essayer de faire entre l'Emmanuel Macron version 1, celui du début de son mandat, je dirais le Macron réformateur à grande vitesse, et puis le nouveau Macron, le Macron 2, qui serait ce Macron qui serait sorti de la crise des Gilets jaunes et de l'organisation du débat national. Et pour Emmanuel Macron, il s'agit de montrer le lien entre les deux, peut-être l'unité entre les deux, et de dire qu'au fond, cette crise lui a permis de retrouver les fondamentaux de sa démarche initiale, qui était sans aucun doute beaucoup plus dans l'horizontale qu'elle a été ensuite incarnée dans cette posture verticale, la fameuse posture jupitérienne qui a quand même conduit à une situation de blocage et d'incompréhension d'une bonne partie de la population sur le rythme des réformes et sur la vitesse à laquelle ces réformes étaient conduites.
Le politologue Bruno Cotteresse, joint par Pierre Neveu. Emmanuel Macron se rendra demain en Auvergne et il est attendu à Clermont-Ferrand pour les 100 ans du journal La Montagne, dont il va rencontrer les salariés. Il compte aussi s'entretenir avec des chefs d'entreprise de la région. 3 jours de manifestation et déjà au moins 19 morts en Irak. Le bilan s'est d'ailleurs peut-être encore alourdi cet après-midi. Les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles pour disperser les manifestants, mais les contestataires continuent de braver les balles. Et le mouvement s'est même étendu aujourd'hui à de nouvelles villes du Sud. Bonsoir Christian Chéneau.
Bonsoir.
Si les manifestants se montrent si déterminés, c'est qu'ils n'en peuvent vraiment plus et ils ont de multiples motifs d'exaspération.
Oui, c'est le signe d'un ras-le-bol général en Irak, surtout parmi la jeunesse qui crie son désespoir face au chômage et à des services publics défaillants. Et cette colère est d'autant plus paradoxale que la situation générale du pays s'est améliorée. D'abord sur le plan sécuritaire, après la victoire sur Daesh, annoncée officiellement en décembre 2017, et puis surtout sur le plan économique, avec l'augmentation des cours du pétrole à plus de 65 dollars le baril en moyenne l'année dernière, sans parler de l'aide internationale à Bagdad, décidée lors de la conférence sur la reconstruction de l'Irak en 2018, qui ne faiblit pas avec des engagements de la communauté internationale de 30 milliards de dollars. Donc les caisses de l'État sont bien remplies. Le problème, c'est la gouvernance du pays avec une corruption endémique qui a atteint un niveau industriel, m'a confié un avocat d'affaires qui accompagne des sociétés françaises sur le marché irakien. D'ailleurs, sur l'index de la corruption dans le monde publié par Transparency International, l'Irak occupe la 168e place sur 180 pays. Dans la pratique, l'argent est siphonné par les partis politiques, les chefs de milices, les chefs de tribus, tout cela dans un climat de clientélisme débridé, alimenté par des clivages confessionnels toujours vivaces dans la société irakienne. Résultat, les gens ne voient aucune amélioration de leur sort alors que le pays est riche.
Et alors face aux manifestants, on l'a vu, les forces de l'ordre répondent par des tirs à balles réelles. Le pouvoir se sent menacé, Christian ?
Oui, le gouvernement d'Adel Abdelmahdi, entré en fonction il y a tout juste un an, est soumis à une très forte pression de la rue. C'est son premier grand test au pouvoir. La réponse sécuritaire, comme l'instauration d'un couvre-feu à Bagdad et dans plusieurs villes du sud du pays, ne suffira pas à rétablir le calme parce que le sang a coulé. Pour le moment, les autorités usent de la force pour rétablir l'ordre, mais elles devront lâcher du lest si des manifestations se poursuivent et surtout si les jeunes continuent de mourir dans les rues. Sinon, la crise sociale pourrait vite devenir politique et mettre en péril le gouvernement d'Adel Abdelmahdi.
Merci pour cette analyse, Christian Chéneau. Nous restons ouverts, mais toujours pas convaincus, répond Donald Tusk à Boris Johnson. Au lendemain de la présentation de la dernière offre faite par le Premier ministre britannique pour éviter un Brexit sans accord, le président du Conseil européen fait part de son scepticisme. Et de son côté, le groupe de pilotage du Parlement européen chargé de la rupture avec le Royaume-Uni estime que ses ultimes propositions ne constituent pas une base pour un accord. Donald Trump plastronne. Le président américain se félicite de la belle victoire obtenue hier auprès de l'Organisation mondiale du commerce. Dans le cadre de la bataille juridique opposant Boeing à Airbus, l'OMC a autorisé les États-Unis à taxer 7,5 milliards de dollars d'importations européennes. Washington a aussitôt annoncé son intention de passer à l'acte. Que répondent les Européens, Johanna Hochstein ?
Nous ne nous laisserons pas faire. C'est en substance le message de la Commission européenne aux États-Unis après l'annonce de Washington d'appliquer des droits de douane sur les produits européens. Daniel Rosario, porte-parole de la commissaire européenne au commerce.
Nous avons porté plainte à l'OMC concernant les subsides du gouvernement américain au constructeur Boeing. L'OMC a donné raison à l'Union européenne dans ce procès. Maintenant, nous attendons une décision de l'OMC sur le montant des dédommagements que l'Union européenne peut imposer le moment venu. Si jamais les États-Unis insistent d'imposer ces mesures, l'Union européenne fera la même chose.
La Commission européenne a établi en avril dernier une liste de produits américains susceptibles d'être taxés. Le ketchup, les agrumes, le poisson surgelé, mais aussi des produits chimiques. L'Union européenne qui exige 12 milliards de dollars de dédommagement pour le préjudice subi par Airbus à cause des aides illégales versées par les États-Unis à Boeing. Mais la Commission européenne espère ne pas devoir en arriver là. Notre porte est toujours ouverte pour un arrangement à l'amiable, car personne ne ressortira gagnant en cas de nouvelle guerre commerciale entre les États-Unis et l'Europe, a insisté le président de la Commission européenne.
Johanna Hochstein à Bruxelles pour France Culture. La Corée du Nord a procédé hier à un tir d'un missile balistique de type nouveau capable d'être lancé depuis un sous-marin. Pyongyang l'a confirmé ce matin. Une provocation comme le régime de Kim Jong-un en a le secret. Ce tir survient quelques heures seulement après l'annonce de la reprise des négociations nucléaires avec les États-Unis. Cela faisait près de 3 ans que le Nord n'avait pas procédé à un essai de ce type. Les précisions de Frédéric Ojardias à Séoul.
Les photos du tir s'étalent ce matin en première page du quotidien des travailleurs, le journal officiel du régime. On voit un missile sortir de l'eau et s'envoler dans un panache de flammes et de fumée grise. Ce missile d'un type nouveau, le Pukuksong 3, a été tiré depuis une barge immergée en mer au large de la ville de Wonsan, face à la mer du Japon. Il est destiné à être tiré depuis un sous-marin. L'engin a parcouru 450 km avant de retomber dans la zone économique exclusive japonaise. C'est la première fois depuis 2 ans qu'un missile nord-coréen va aussi loin et avec une trajectoire plus aplati, il a une portée évaluée à au moins 2000 km. Ce tir est donc une provocation majeure. Il montre que les capacités sous-marines nord-coréennes progressent. En juillet, le régime dévoilait un nouveau sous-marin et il tire aujourd'hui un missile capable d'emporter une ogive nucléaire, un engin beaucoup plus difficile à détecter qu'un projectile tiré depuis le sol. Cette provocation peut être interprétée comme une façon pour le régime de faire pression sur les États-Unis avant le début des pourparlers nucléaires qui sont prévus samedi et qui sont attendus depuis des mois. La Corée du Nord va s'asseoir à la table des négociations en position de force avec 11 séries de tirs rien que cette année. Ces récents progrès balistiques sont spectaculaires et trouver un compromis sera difficile.
Et après ce dernier test de missile nord-coréen, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne demandent une réunion à huis clos du Conseil de sécurité de l'ONU demain. Le président du Honduras est-il lui-même impliqué dans des trafics de stupéfiants et de corruption liés au crime organisé? C'est ce qu'affirme un procureur fédéral de New York à l'ouverture du procès pour trafic de drogue d'un des frères du dirigeant hondurien. Le procureur accuse Juan Orlando Hernandez d'avoir touché des millions de dollars de pots de vin de narcotrafiquants, Nadine Epstein.
En 2014, selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, le Honduras détenait l'indice le plus élevé d'homicides, une criminalité liée au trafic de stupéfiants, à la corruption et aux extorsions de fonds qui gangrénaient la société. Un fléau du crime organisé, financé par les mafias de la drogue, en tête desquels les cartels mexicains, réputés pour leur extrême violence. Hier, à l'ouverture du procès de Juan Antonio Hernandez Alvarado, l'un des 17 frères du président du Honduras, inculpé par la justice américaine de trafic de drogue, possession d'armes à feu et faux témoignages, le procureur new-yorkais Jenson Richman a accusé le prévenu de couvrir son frère, le président du Honduras. Il précise que l'inculpé a reçu des mains du fameux El Chapo, alors chef du cartel mexicain, 1 million de dollars à remettre à son frère. Ces accusations sont fausses à 100%, absurdes et ridicules, a aussitôt répondu le président hondurien. Mais le magistrat new-yorkais entend démontrer le contraire au cours de ce procès qui va durer une dizaine de jours. Arrêté à l'aéroport de Miami en 2018, Tony Hernandez est, selon les Américains, impliqué dans le trafic de drogue depuis 2004 et soupçonné d'avoir participé pendant une décennie à la distribution de cocaïne et d'être impliqué dans plusieurs assassinats entre 2011 et 2013. Le procureur, lui, le soupçonne d'avoir servi d'intermédiaire à l'actuel chef de l'État du Honduras, qui l'accuse d'avoir dépensé de l'argent des narcotrafiquants pour son élection.
Sans cesse repoussées depuis 4 ans, les élections législatives au Tchad vont l'être une fois encore. Elles ne pourront pas avoir lieu avant le premier trimestre 2020 au mieux, annonce la commission électorale. Il y a 2 semaines, le chef de l'État avait pourtant sommé la commission d'organiser le scrutin avant la fin de l'année. L'opposition exhorte maintenant le gouvernement à prendre plus de temps pour organiser le scrutin dans des conditions optimales. Demain vendredi, le temps sera pluvieux sur le nord et l'est de l'Hexagone, nuageux ailleurs, un peu plus de soleil sur les régions méditerranéennes. Les températures minimales iront de 4 à 9 degrés sur le nord et l'est du pays, 9 à 16 sur l'ouest et le sud. L'après-midi, il fera 14 à 19 sur la moitié nord, 18 à 21 sur le quart sud-ouest, 21 à 26 près de la Méditerranée. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.